Nous continuons notre série de prédications sur les sept églises de l'Asie. Dimanche dernier, Frédéric avait prêché sur l'église d'Éphèse. Et ce matin, je vais traiter l'église de Smyrne. Je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit : Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'ayez pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Les sept églises de la province romaine d'Asie était situé en gros dans le tiers occidental de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. La ville de Smyrne se trouvait environ à 50 km au nord d'Éphèse sur la côte. Les colons grecs étaient à l'origine de sa fondation. Cette ville faisait partie des villes les plus prospères de l'Asie mineure, grâce à son développement routier maritime. Elle se vantait d'être la fierté de l'Asie. Elle était en rivalité avec la ville d'Éphèse. La ville de Smyrne avait fait alliance avec Rome. Elle approuvait Rome contre les Séleucides, c'est-à-dire les successeurs d'Alexandre le Grand qui régnait sur la Syrie. Elle avait érigé en 195 avant Jésus-Christ un temple à la déesse Roma. Rome la considérait comme une précieuse alliée. En contrepartie, Rome a choisi la ville de Smyrne en 26 avant Jésus-Christ, comme le lieu du temple de l'empereur Tibère. Cette alliance a été bénéfique pour Smyrne sur le plan économique et social à l'époque de la domination romaine. Qu'en est-il pour l'Église? Quels sont les enjeux pour elle? La présentation du Christ à son Église révèle les enjeux de cette alliance entre Rome et Smyrne. Christ s'est présenté à l'Église de Smyrne comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Y a-t-il peut-être là une allusion à l'histoire de la ville, sa destruction vers 624 avant notre ère, signifiait sa mort, puis sa reconstruction au IIIe siècle avant notre ère signifiait sa résurrection. Sûr, mais on peut avancer d'autres arguments, surtout les présentations du Christ aux sept églises d'Asie sont étroitement liées au message qui veut leur communiquer. Cette présentation du Christ « J'étais mort » et je vis maintenant est appropriée, réconfortante, décisive pour pour des chrétiens menacés de mort à cause de leur fidélité à Christ. Ainsi, ils pourront faire face d'une manière sereine face à la mort, car, comme pour leur Seigneur, ils ressusciteront à leur tour. La situation des chrétiens de Smyrne était difficile à cause de cette alliance entre Rome et Smyrne. Je connais l'épreuve qui t'accable, ainsi ta pauvreté. Quelle est cette épreuve? L'alliance entre la ville de Smyrne et l'Empire romain n'était pas sans conséquence à la tranquillité des chrétiens. Leur persécution était liée en partie à leur refus de rendre un culte d'adoration à l'empereur. On exigeait chaque habitant de Smyrne de verser de l'encens sur un autel devant le buste de l'empereur en confessant Christ est Seigneur. Oui ou non? En confessant César est Seigneur. Cette confession témoigne allégeance à Rome. Mais comment les chrétiens de Smyrne pouvaient-ils confesser César leur Seigneur s'ils avaient confessé que Jésus est leur véritable Seigneur? Ce dilemme, mes frères et sœurs, a fait de Polycarpe, évêque de Smyrne en l'an 56, un martyr pour sa foi. Il a refusé de rendre un culte d'adoration à César. Le culte rendu au Seigneur Jésus par les chrétiens faisait d'eux des traîtres. Car le culte rendu à César avait une dimension politique significative pour la prospérité et la richesse de Smyrne. Ce même dilemme, nos frères qui se trouvent dans le monde, dans certains pays, la font pour les mêmes raisons politiques, économiques et sociales. Ils sont persécutés violemment, de diverses manières. Ils sont mal compris. Ils sont jetés en prison. Ils sont assassinés. Ce qui a fait réagir l'ancien pape Benoît XVI. Il disait « Confesser la foi chrétienne demande de l'héroïsme de la part de ceux qui se réclament de la parole du Christ. » Il y a aussi le docteur Paul Marshall de l'Institut d'études chrétiennes de Toronto. Il évoque la tragédie mondiale des chrétiens contemporains qui meurent pour leur foi. Pourquoi cette pauvreté? La pauvreté de l'église de Smyrne fait contraste avec la prospérité et la richesse de la ville. Cette précarité était en partie due à l'intégrité morale et spirituelle des chrétiens de Smyrne. Ainsi, ils sont marginalisés, privés d'entretien et d'embauche, licenciés, tenus à l'écart des affaires, dépouillés de leurs biens. L'Église de Dieu est comprise comme une menace, comme un corps étranger dans la société, un frein au développement économique de la cité par des partisans de César, par certains juifs non convertis qui diffamaient, qui dénonçaient les judéo-chrétiens aux autorités. pour ces juifs non convertis, pour eux, les judéo-chrétiens ne sont pas des juifs. Aujourd'hui, certains chrétiens intègres vivent la même situation que ceux de Smyrne. Mais aux yeux du Seigneur, ils sont riches d'un trésor incorruptible dans les cieux. La grâce du Seigneur surpasse la richesse terrestre. L'église de Melun, comme celle de Smyrne, pouvait avoir ce sentiment d'être pauvre, dans le sens où elle n'accomplit pas ce qu'elle pouvait, faute de finances et de moyens. Mes chers frères et sœurs, pour le Seigneur, ce n'est pas ce que l'Église accomplit qui la rend riche, mais à cause de la grâce de Dieu. Les prévisions, ou bien la prévision du Christ pour son Église, n'est pas trop encourageante. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur prévient son Église les souffrances à venir. Le diable redoublera ses efforts contre elle pour la terroriser. Ainsi, sa fidélité à Christ sera ébranlée par la peur. L'exhortation et l'encouragement aux chrétiens de Smyrne à ne pas craindre sont à la mesure de la situation. La crainte paralyse notre fidélité à Christ lors de la persécution. Comment vaincre cette crainte, cette peur? En nous confiant en celui qui était mort et qui vit maintenant. D'où l'importance de cette présentation du Christ à son Église. J'étais mort et je suis vivant. Les hommes peuvent tuer le corps, certes, mais le Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Celui qui place toute sa confiance en lui vivra même s'il meurt. Jésus est la résurrection et la vie. Nous devons aussi garder à l'esprit l'exemple du Christ qui n'a pas refusé la croix, mais son regard était fixé sur sa victoire, sur le royaume des ténèbres dont le diable est le père. Nous pouvons aussi atténuer la crainte, d'une part en nous appropriant cette béatitude. Heureux serons-nous quand les hommes nous persécuteront à cause du beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Et d'autre part, comme l'apôtre Paul, il disait que la souffrance pour le Christ est comme une grâce. Philippiens chapitre 1, verset 29. Le diable cherche à nous détruire. Notre Seigneur Jésus-Christ nous teste dans une durée déterminée, supportable, dans le but de nous perfectionner. La persécution peut purifier notre fidélité à Christ et consolider notre caractère de croyant. L'appel du Christ à la fidélité de l'Église de Smyrne au sein de la persécution est un acte volontaire l'emportant sur un état émotionnel, sur un état de peur. Il eût été trop facile de dire « Quand je suis en paix, sois fidèle jusqu'à la mort. » La fidélité de l'Église de Smyrne au Seigneur Jésus-Christ lui coûte la vie, la pauvreté, contrairement à celle de l'église de Smyrne, contrairement à celle de la ville de Smyrne, envers Rome, qui lui coûte la prospérité et la tranquillité. Sera-t-il pareil dans l'au-delà? Voilà la grande question. Je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. La seconde mort ne causera pas de mal. Le ressuscité, à savoir le Christ, il a promis une bénédiction à celui qui résiste à la persécution jusqu'à la mort. La lettre se termine avec une promesse d'une récompense appropriée à la situation de l'Église. Au-delà du martyr, il y a la vie donnée par le Christ qui entraîne les croyants dans sa résurrection. Satan voit dans l'exécution du chrétien la fin de toute chose. Pour le Christ, c'est le début de la vie. Quel paradoxe. La mort infligée au martyr chrétien n'est pas la plus redoutable. Elle débouche en fait sur le paradis, sur la vie éternelle, sur la couronne de vie, sur l'arbre de vie. La seconde mort qui est l'enfer, la mort éternelle, séparée loin de Dieu, ne concerne pas ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort pour le Christ, pour leur foi, mais aux persécuteurs, à ceux qui obéissent au diable. La ville de Smyrne était réputée pour son arène et ses jeux. L'Église n'a pas eu trop de difficultés, à mon avis, à comparer la vie chrétienne à une compétition sportive, à un concours. Cette course demande la rigueur. Cette course demande la ténacité, de l'énergie, accompagné de sueur et aussi de douleur. Je suis bien placé pour prendre cette image de compétition sportive, car auparavant je faisais de l'athlétisme. J'ai été entraîné par l'ancien entraîneur de Marie-Josée Pérec et je connais la souffrance de l'entraînement. Mais sur la ligne d'arrivée, comme me disait mon entraîneur, il y a le succès, il y a la médaille. Et pour l'église de Smyrne, celui qui était mort et celui qui est ressuscité, celui qui est le premier et celui qui est dernier, le vainqueur est dans ses mains la couronne de vie pour chaque chrétien. Pour nous ce matin, vainqueurs de nos épreuves. J'aime beaucoup cette citation de Martin Luther King. Il affirme radicalement que la persécution précède le couronnement. Écoutez les paroles de Martin Luther King. Il commence fort. Ce pasteur baptiste qui est décédé à cause de sa lutte contre le racisme. Nous nous trompons gravement en pensant que le christianisme nous protège de la peine et de la souffrance de cette existence mortelle. Je répète. Nous nous trompons gravement en pensant que le christianisme nous protège de la peine et de la souffrance de cette existence mortelle. Le christianisme a toujours souligné que la croix précède la couronne. Pour être chrétien, nous dit Martin Luther King, chacun doit porter sa croix avec toutes ses difficultés et son poids épuisant et tragique. et porter cette croix jusqu'à ce qu'elle fasse ses marques sur nous et nous rachète de cette façon excellente qui ne vient que par la souffrance. Si nous pensons que l'Évangile est capable de nous donner la paix, la tranquillité ici-bas, nous nous trompons. Mais la souffrance, vivre fidèlement et courageusement notre foi à l'heure de la persécution exige une vision claire de notre part sur notre couronnement dans le futur. Si nous savons, nous avons cette vision que nous serons récompensés de la couronne de vie, alors nous pouvons affronter d'une manière sereine la persécution, l'épreuve, les difficultés. Chers frères de Melun, chères sœurs, amis visiteurs, le message du Seigneur à l'église de Smyrne est aussi profond pour nous qu'il l'était pour eux. Si nous sommes fidèles et intègres, nous souffrirons, nous serons persécutés. Puisque la croix est toujours présente dans la vie chrétienne, car le christianisme est une religion de la croix. Nous devrons prendre pour modèle les témoins fidèles du Christ dans le passé et même aujourd'hui, qui ont refusé de faire le beau devant Dieu. C'est fuir la croix. Et fuir la croix, c'est tourner le dos à Christ. Mais ils ont préféré que leur sang soit une semence pour le chrétien. Un encouragement à placer notre confiance au Seigneur, aussi redoubler d'audace pour annoncer sans crainte l'évangile du Christ. Soyons fidèles, mes frères et sœurs, au Christ. Ne craignons pas. Car, en dépit de la persécution, le royaume de Dieu et la proclamation du Christ crucifié et ressuscité se propage dans le monde entier grâce à nos prières et l'assistance de l'Esprit-Saint. La persécution et la mort ne pourront rien contre l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas emprisonner l'Évangile. On ne peut pas tuer l'Évangile. Le Seigneur connaît nos tribulations. Le Seigneur connaît nos difficultés. Le Seigneur contrôle notre destin. Et nous serons couronnés de la couronne de vie à la fin de cette belle course palpitante. Amen.